Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, une émission aujourd'hui intitulée « Symphonie des textes et traditions chrétiennes » à l'occasion de la parution cette année d'un livre aux éditions des Belles Lettres sous le titre « Symphonia, la concorde des textes et des doctrines dans la littérature grecque jusqu'à Origène ». Son auteur, Sébastien Morlet, maître de conférence à Sorbonne Université, est avec nous pour parler de cette idée très importante pour le christianisme et en particulier pour l'exégèse chrétienne, à savoir l'accord des textes reçus entre eux, ce qui constitue un point fondamental dans l'établissement de la tradition. Sébastien Morlet, ce livre qui est en fait la refonte de votre habilitation à diriger des recherches soutenues en 2016, traite de la naissance de cette idée capitale pour le christianisme, mais dont l'origine se trouve dans le monde hellénique.
Oui, effectivement. Alors, c'est un livre qui est consacré à une idée et en même temps à des pratiques. Alors, l'idée, c'est que la Bible serait un texte parfaitement concordant avec lui-même, éventuellement concordant avec d'autres textes. On est dans l'Antiquité chrétienne, donc ces autres textes, ce sont les textes grecs. Et c'est un livre qui est consacré à des pratiques qui sont associées à cette idée, qui découlent de cette idée, et qui supposent que dans l'exégèse, dans le commentaire de l'Écriture, on va commenter la Bible par la Bible, ou éventuellement la Bible à la lumière d'autres textes, les textes poétiques grecs ou les textes philosophiques.
Au cours de l'émission, on va suivre un peu la table de matière de votre livre, qui est un livre érudit, mais on peut évidemment lire ci ou là les passages qui intéressent davantage tel ou tel, évidemment, lecteur. Ce qui m'a étonné un tout petit peu au début, c'est que vous commencez par des termes qui font penser à un manuel de musique, je dirais. Symphonia et diaphonia dans la pensée grecque jusqu'à l'époque impériale. Des
oui,
termes musicaux.
Effectivement, et je le fais pas par hasard, je le fais parce que on va voir que dans l'exégèse chrétienne qui se développe au cours des trois premiers siècles, hein, c'est la période chronologique que j'envisage, il y a un vocabulaire spécifique, tout à fait technique, qui est utilisé par les commentateurs et qui provient du vocabulaire musical. Donc j'essaye de faire un peu l'archéologie de ce vocabulaire depuis les premiers textes grecs où ces textes apparaissent. Et effectivement, on a notamment ce couple symphonia-diaphonia, c'est-à-dire en traduction concorde-discorde. Alors évidemment, symphonia, ça a donné symphonie dans le vocabulaire que nous connaissons. Mais c'est un terme qui est tout à fait courant en grec dans l'Antiquité, et qui sert à désigner tout simplement la notion d'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez les chrétiens, le terme est technique. On va peut-être reparler des usages techniques de ce vocabulaire. Mais au départ, comme vous l'avez dit, ça vient de la musique, en fait. Hein. Symphonia, ça désigne l'accord des voix, l'accord des instruments. L'accord éventuellement des cordes aussi, sur une lyre, sur une cithare, hein, puisque tout ça commence à l'époque archaïque en Grèce.
Faisons-le donc maintenant, analyse technique des mots pour voir, parce que ces mots vont avoir après une importance capitale pour l'interprétation des textes, pour les rapports entre les textes, donc entrons dans le vocabulaire musical.
Oui, et alors c'est d'autant plus intéressant et important que même si ce vocabulaire devient technique à l'époque de l'Empire romain, l'époque qui nous intéresse, le développement du christianisme, il va toujours garder une connotation musicale, ce qui va conduire les chrétiens à élaborer des idées très belles, en fait, sur le texte, sur l'idée que ce texte n'est pas simplement un texte comme les autres, mais qu'il s'agit véritablement d'une musique, d'un chant. Hein, c'est la musique de Dieu, c'est Dieu, le grand musicien, qui chante dans l'écriture. Donc on va trouver de très beaux textes, notamment à partir d'Irénée de Lyon, à la fin du IIe siècle, chez Clément d'Alexandrie, chez Origène. Mais pour répondre à votre question, ce qu'il faut préciser, c'est que les chrétiens ne sont pas tout à fait l'inventeur de ce vocabulaire. En fait, dans mon livre, encore une fois, j'essaye de retracer l'histoire de ces mots et de la façon dont ils sont utilisés. Et c'est une histoire qui commence, je l'ai dit tout à l'heure, dans les premiers textes grecs, dans les textes poétiques, chez Pindare, chez Sophocle, on a déjà un usage de ce vocabulaire. Et c'est un vocabulaire qui devient technique à l'époque qu'on appelle hellénistique, hein, c'est-à-dire la période comprise entre le 3e siècle avant et le 1er siècle avant Jésus-Christ, notamment sous la plume des commentateurs d'Homère, qui essayent de démontrer, on a des traces de leur travail exégétique, l'accord du poète avec lui-même. Il y a toute une réflexion sur les vers homériques qui sont en accord avec d'autres vers ou éventuellement en désaccord. Et ça va passer en fait progressivement dans le christianisme.
On va maintenant aller suivre donc le schéma de votre livre. Il y a, si j'ai bien compris, trois cas de figure en tout cas. L'accord des textes avec l'hellénisme, l'accord des textes avec la littérature juive mais d'expression grecque, et puis l'accord des textes chrétiens, j'entends, et puis surtout, ce qui nous intéresse davantage ici, l'accord des textes chrétiens entre eux. Alors, on va prendre, si vous voulez, de manière comme ça, historique et analytique, avant de nous concentrer sur l'exégèse chrétienne qui se fonde même sur l'idée que tout verset biblique peut être éclairé, interprété par un autre verset biblique.
Oui, alors là j'ai parlé, je dirais, de l'arrière-plan grec, un des précédents païens, si j'ose dire, mais dans la tradition chrétienne, le point de départ, en fait, il est dans le Nouveau Testament lui-même, hein, puisqu'on a un certain nombre de textes qui déjà évoquent un peu cette idée que les Écritures, alors évidemment à l'époque du Nouveau Testament, les Écritures, ça désigne ce que nous appelons, pour faire simple, l'Ancien Testament, que les Écritures sont en accord avec elles-mêmes. Il y a notamment, dans l'Évangile de Matthieu, le propos de Jésus, hein, qui est « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir », qui est au point de départ de ce qu'on va appeler l'argument prophétique, c'est-à-dire un type d'argument qui va être largement utilisé par les premiers chrétiens, qui consiste à dire que on aurait dans le Nouveau Testament un accomplissement de l'Ancien. Hein. Donc il faut bien comprendre que ça, c'est une idée très importante qui explique en grande partie pourquoi va se développer tout ce discours concordiste, symphonique, dans la pensée chrétienne. C'est cette idée qu'il y a un accord, il y a un accomplissement qui se joue dans la vie de Jésus par rapport à ce qui est annoncé dans les Écritures. Il y a un autre passage dans les Évangiles hein, qui dit que tous les commandements se résument à deux principes, hein, qui sont l'amour du prochain et l'amour de Dieu. On a là aussi déjà en creux hein, l'idée que, d'une certaine façon, les textes de l'Écriture résonnent entre eux et résonnent par rapport à deux idées fondamentales hein, qui seraient plus importantes que les autres. Et puis finalement, cette idée va se développer peu à peu dans la tradition chrétienne, chez les apologistes, ceux qu'on appelle les apologistes, hein, c'est-à-dire des chrétiens qui, au IIe siècle, écrivent des défenses du christianisme. On a déjà, chez un auteur comme Théophile d'Antioche, par exemple, à la fin du IIe siècle, qui écrit trois livres à Autolycos, qui sont en fait une défense du christianisme, l'idée que ce qui caractérise les écritures chrétiennes par rapport aux écritures grecques, c'est justement la concordance, là où les Grecs seraient en désaccord. Et pour Théophile, il y aurait là d'ailleurs un indice décisif de l'inspiration des écritures. Il y a cette connexion qui va se faire entre la notion de concorde et d'inspiration. Un Théophile dit en substance, vous les Grecs, vous tenez des propos contradictoires sur tous les sujets, parce que précisément, vous n'êtes pas inspiré par Dieu, mais nous avons les prophètes qui disent tous la même chose, qui parlent à l'unisson, il y a toujours ce vocabulaire musical qui revient, et ça c'est la meilleure preuve que les prophètes sont des prophètes, hein, puisqu'ils parlent en fait d'une seule voix, c'est toujours le même qui parle. Alors, on peut encore continuer, après Théophile on trouve Irénée, quelques temps après, et chez Irénée cette idée que l'unité de l'écriture découle de l'unité du Dieu qui s'exprime, est une idée très importante qui est très souvent répétée par Irénée. Irénée, il est connu essentiellement, il est évêque de Lyon vers la fin du IIe siècle, il est connu pour un grand ouvrage qui est une dénonciation et une réfutation des hérésies. Alors ces hérésies à l'époque d'Irénée, ce sont essentiellement les courants gnostiques et ce qu'on appelle le marcionisme. Le marcionisme, c'est un courant chrétien qui suppose une hétérogénéité radicale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour Marcion, Jésus n'est pas le Messie annoncé par les prophètes. Il y aurait deux dieux, il y aurait le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. C'est dans ce contexte polémique, face à Marcion, que Irénée est amené à souligner, contre Marcion, contre cette idée de dualité des Écritures, l'unité parfaite du corpus biblique. Hein, il n'y a qu'un seul Dieu qui s'exprime dans les deux testaments. Alors, il s'y exprime de façon différente, c'est la notion d'économie chez Irénée. Il y a une économie, c'est-à-dire une adaptation de Dieu dans l'histoire. Dieu s'adapte au niveau spirituel de ceux qui l'écoutent, et il ne tient pas toujours le même discours. Mais au-delà de cette variété, en fait, il y aurait une profonde unité. L'œuvre d'Irénée est très importante dans la gestation de cette idée de symphonia biblique.
Nous allons passer maintenant dans le monde chrétien, je dirais, purement, et puis l'interprétation justement de la Bible par la Bible. Mais avant, nous allons entrer dans l'Église. C'est l'office quotidien des Vêpres, donc pour l'Église orthodoxe, et une hymne qui est attribuée à un auteur du 3e, 4e siècle, Athénogenès, si c'est vrai, ou pour certains, c'est même avant lui, donc pour montrer l'importance de la tradition dans la liturgie, non seulement avec les textes bibliques, mais également avec les hymnes. Lumière joyeuse, donc, extrait des Vêpres, un office quotidien, comme je dis, pour l'Église orthodoxe, et ce sont les moniales du monastère Sainte-Élisabeth de Minsk qui chantent. Lumière joyeuse, hymne chanté par les moniales du monastère Sainte-Élisabeth de Minsk. Nous revenons à notre entretien avec Sébastien Morlet sur Symphonie des textes et traditions chrétiennes. Sébastien Morlet, vous nous avez présenté les premiers auteurs chrétiens. On en est à Irénée de Lyon, donc, évêque de Lyon, mais d'origine smyrniote. Donc le lien avec l'Orient est évident et le monde grec. Alors la suite.
Oui, alors la suite c'est Clément d'Alexandrie, et puis ensuite c'est Origène, auquel je consacre une grosse partie dans mon livre. Je vais surtout me concentrer sur Origène, peut-être. Origène n'a pas forcément bonne presse aujourd'hui, parce qu'il a été condamné pour ses idées dogmatiques.
Je crois qu'il faut faire la part des choses. Origène est un des plus grands éditeurs de textes, on lui doit beaucoup, et on réfléchit parfois pas assez pour savoir qu'est-ce que ce serait s'il n'avait pas eu Origène. Mais évidemment, il y a eu certaines thèses qui ont été condamnées, 3 siècles après sa mort d'ailleurs, pour des questions d'interprétation de ces textes, etc. Donc il y a une partie d'Origène, une partie dogmatique qui a été condamnée au concile de 553, mais pour le reste, Origène est une très grande référence dans le monde chrétien, et pour ce genre de travaux, évidemment, il est fondamental de parler de lui.
Non ? Oui, voilà. Moi, l'origine qui m'intéresse ici, c'est pas l'origine dogmatique, en fait, c'est l'origine exégète. Hein, il faut rappeler qu'il est le premier, ou l'un des premiers, en tout cas, chrétiens, à écrire des commentaires sur l'écriture. On n'en a pas vraiment avant. Et il se lance dans une entreprise de commentaires quasi complets de l'écriture. On a des traces de commentaires sur tous les livres bibliques, même si la plupart de ces commentaires, malheureusement, ont disparu. Alors, c'est chez Origène qu'on va trouver une véritable théorisation, pour la première fois, de cette idée de symphonia biblique, de son accord avec elle-même, et surtout une mise en pratique de cette idée dans le commentaire exégétique. Origène rappelle souvent des passages du Nouveau Testament, comme Jean 5,39, hein, scruter les Écritures. Et scruter les Écritures, pour Origène, ça veut dire notamment être attentif aux passages parallèles, aux passages qui présentent des échos. Être riche en toute parole, c'est la première épître aux Corinthiens. Hein, être riche en toute parole, c'est-à-dire se nourrir de la totalité des Écritures pour être en mesure de déceler ça et là les passages qui se répondent. C'est une idée vraiment très importante chez Origène. On a un très beau texte qui a été conservé dans ce qu'on appelle la Philokalie, c'est-à-dire un recueil plus tardif, hein, de la fin du IVe siècle, peut-être composé par Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze, qui rassemble des extraits d'œuvres parfois perdues d'Origène. Et dans ce texte, il est question d'une image, hein, l'écriture comparée à une maison qui comporterait un grand nombre de pièces devant lesquelles se trouveraient des clés, mais pas la clé qui ouvre la porte devant laquelle se trouve chaque clé. La tâche de l'exégète, dit Origène, c'est d'accorder la bonne clé avec la bonne porte, en fait. Hein, ce qui veut dire, finalement, faire jouer les harmoniques dans l'écriture. Alors, on a une mise en œuvre de cette exégèse symphonique, ce que j'appelle l'exégèse symphonique dans l'écriture, qui est absolument impressionnante chez Origène. D'autres textes expliquent qu'il faut savoir discerner l'accord des prophètes et de la loi, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, des évangiles entre eux, des évangélistes et des apôtres, ou de l'apôtre, c'est-à-dire de Paul. Donc Origène essaye d'envisager vraiment tous les parallèles possibles. Alors on peut prendre quelques exemples, si vous voulez. Par exemple, le commandement de tendre sa joue aux ennemis, qu'on trouve dans l'évangile de Luc 6, Origène note qu'on en trouverait un écho déjà chez le prophète Jérémie, au chapitre 3. Lorsqu'il commente la Genèse, le chapitre 15, hein, c'est Dieu qui fait un certain nombre de promesses à Abraham, Origène remarque que ce texte en rappelle un autre, c'est Genèse 22, où il est question de d'autres promesses qui sont faites à Abraham, sauf qu'il y a une différence, donc la différence intéresse aussi Origène, qui tient au fait qu'au chapitre 15, Abraham est amené à compter les étoiles depuis la terre, alors qu'au chapitre 22, il entend une voix qui vient depuis le ciel. Hein, ce qui conduit Origène à faire tout un commentaire spirituel sur cette différence.
Vous parlez de concorde et de concordisme même. Pourquoi cette idée, cette obsession de trouver toujours un rapport? Et puis avec ce que vous avez dit là, tout à l'heure, évidemment, sur le rapport Ancien-Nouveau Testament, il y a Marcion, etc. C'est-à-dire Marcion qui a été condamné pour avoir séparé totalement l'Ancien Testament du Nouveau. La question est évidemment, comment passe-t-on des textes aux doctrines? Parce que ce qui intéresse aussi l'Église, c'est les doctrines.
Oui. Alors, pourquoi cette insistance? D'abord parce qu'il y a un contexte polémique, dont on a un peu parlé, hein, à la fois contre les hétérodoxies, donc tous les courants, qu'ils soient gnostiques ou martionnites, qui supposent une différence radicale entre les deux testaments, enfin la Bible juive en tout cas pour Marcion, et puis la Bible chrétienne. Un contexte polémique qui nous renvoie également à la controverse, au dialogue que les chrétiens mènent avec le judaïsme. Puisqu'évidemment, l'idée que Jésus serait le Messie annoncé par les prophètes est contestée par les juifs dès l'Antiquité, donc il y a une polémique très, très vive entre juifs et chrétiens à ce sujet. Donc ce contexte polémique, il suffirait déjà à expliquer toute l'importance que prend ce discours concordiste. Mais je pense qu'il ne suffit pas. Hein. On a parlé d'Irénée, on a parlé d'Origène. On voit bien que chez ces auteurs, l'idée qui consiste à lire la Bible par la Bible, c'est aussi un principe exégétique, un principe scientifique en fait, un principe de lecture scientifique du texte biblique. C'est de la théologie, c'est une règle fondamentale dans l'exercice du métier de théologien. Et ça ne se justifie pas uniquement par des raisons polémiques. Hein, c'est vraiment une règle de l'interprétation et je dirais que c'est peut-être la règle numéro un. Dans l'Antiquité, hein, être capable de lire la Bible par la Bible.
Donc, une dernière, je dirais, question, mais très importante. En quoi ce concordisme chrétien est-il novateur par rapport à ce qui a précédé, puisque l'idée n'est pas chrétienne?
Oui, alors, j'ai eu l'occasion de le dire un peu tout à l'heure. Il y a des précédents grecs dans la façon dont les savants d'Alexandrie commentent le texte homérique. Hein, il y a tout un vocabulaire qui se met en place, qui va être repris par les chrétiens. On peut avoir l'impression, si on regarde les textes de loin, que les chrétiens se contentent finalement de reprendre les mêmes techniques et qu'ils les adaptent au texte biblique. Donc on pourrait déjà se contenter de dire ça, en fait, ils adaptent à un texte sacré, religieux, des méthodes qu'ils doivent aux savants grecs. Mais à mon avis, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans les premiers textes, c'est que au-delà de la mise en œuvre de cette exégèse, il y a, à mon avis, une mutation profonde qui s'opère sur l'idée même de symphonia. C'est-à-dire que ce que les Grecs appellent la symphonia du texte homérique, c'est pas exactement ce que les chrétiens appellent la symphonia du texte biblique. Et à mon avis, la différence fondamentale, elle tient au fait que les réflexions des chrétiens interviennent dans un cadre qui est religieux, qui est théologique, ce qui conduit à rattacher à la notion de symphonia un certain nombre d'éléments qu'on peut appeler, si vous voulez, surnaturels. Et notamment, je l'ai dit tout à l'heure, l'idée d'inspiration. Le lien entre symphonia et inspiration est absolument absent dans la réflexion des savants alexandrins sur Homère. Si le texte homérique est symphonique, concordant pour ces savants, c'est pas parce que c'est un discours divin, c'est simplement parce que c'est un texte cohérent. Pour les chrétiens, dire que la Bible est symphonique, ça veut dire, entre autres choses, que c'est le discours de Dieu, c'est la parole de Dieu elle-même. Et ça, à mon avis, c'est la différence fondamentale, c'est le cadre théologique.
Et c'est peut-être un autre exemple très important de l'idée qu'il faut lire la littérature antique, il faut la connaître, ce que dit d'ailleurs Basile de Césarée très bien dans son discours aux jeunes, hein, mais il faut choisir avec beaucoup de discernement ce qu'on y prend, et qu'il y a un vivier extraordinaire dans le monde antique, mais que le chrétien doit choisir après, non seulement donc les textes ou les mots ou les doctrines, mais également les techniques. C'est ça qui est important.
Oui, et je crois que c'est toujours ce qui est fascinant quand on s'intéresse au lien entre christianisme et tradition grecque, c'est qu'on s'aperçoit de la grande continuité et en même temps des innovations, des mutations qui se jouent dans la littérature chrétienne.
Ben, Sébastien Morlet, un grand merci. Bon, il ne reste plus qu'à lire évidemment votre livre si riche. Donc, le titre du livre, Symphonia, la concorde des textes et des doctrines dans la littérature grecque jusqu'à Origène, paru aux Belles Lettres en 2019. Un grand merci. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Anne Pérez. Prise de son, Manuel Couturier. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.